bout de souffle.
Quand tu n'es pas là, mon lit est un tombeau, le soleil est trop haut, les corps sont des statues, tous les pas sont perdus. Quand tu n'es pas là, mes chevaux sont figés au manège glacé, et le beau ciel de mai n'est plus qu'un lit défait. Quand tu n'es pas là, la ville est ville morte, avec la ronce aux portes, et à chaque tournant des feux verts pour le vent. Quand tu n'es pas là, je respire de l'eau et je me sens de trop, car la terre se plaint de ma voix sur les reins. Et quand tu es là, ah, quand tu es là.
C'est pareil.
À bout de souffle. Entretien avec Louis Georgetin à propos de l'apparition du livre L'invention de la culture hétérosexuelle aux éditions Autrement dans la collection Sexe en tout genre.
Corridon. Songez que, dans nos sociétés, dans nos mœurs, tout prédestine un sexe à l'autre. Tout enseigne l'hétérosexualité. Tout y invite, tout y provoque. Théâtre, livre, journal. Exemple affiché des aînés, parade des salons, de la rue. Si l'on ne devient pas amoureux avec tout ça, c'est qu'on a été mal élevé. Quoi ? Si l'adolescence cède enfin à tant de complicité ambiante, vous ne voulez pas supposer que le conseil ait pu guider son choix, la pression inclinée, dans le sens prescrit, son désir. Mais si, malgré conseils, invitations, provocations de toutes sortes, c'est un penchant homosexuel qu'il manifeste, aussitôt vous incriminez telle lecture, telle influence, et vous raisonnez de même pour un pays entier, pour un peuple. C'est un goût acquis, affirmez-vous. On le lui a appris, c'est sûr.
À bout de souffle. Alors peut-être une petite présentation avant de commencer cet entretien. Alors vous enseignez la littérature à l'IUFM d'Orléans. Vous êtes président du Centre des mémoires lesbiennes, gays, bi et trans de Paris. Vous êtes également porte-parole du Conseil représentatif des associations noires de France. Vous avez dernièrement créé l'Observatoire de la vie hétérosexuelle. Vous avez dirigé le dictionnaire de l'homophobie, édité aux Presses universitaires de France. Et vous dirigez la collection Sexe en tout genre chez Autrement, collection dans laquelle est paru votre dernier livre, L'invention de la culture hétérosexuelle. Alors notre entretien portera essentiellement sur ce livre. Mais puisque les questions de genre et de sexualité renvoient toujours plus largement à un ordre symbolique masculin, blanc, bourgeois, catholique, comme on a pu le trouver dans le site du CRAN, nous aborderons aussi quelques thématiques soulevées par le CRAN, notamment celle de la discrimination positive ou celle des lois dites mémorielles. Alors malgré les insistances de Deleuze à nous enseigner que la philosophie renvoie toujours à un problème concret, nous avons encore tendance à considérer la philosophie et les sciences humaines en général comme des sciences abstraites, déconnectées des réalités concrètes, auxquelles répondraient beaucoup mieux les sciences dites dures. Cependant, c'est oublier que la démarche commune de toutes les sciences consiste justement à interroger les évidences partagées de notre monde et par là même, cette fameuse réalité, qui serait identique à tous et finalement s'imposerait comme un ordre naturel du monde. Aussi, votre questionnement inaugural, porte sur une de ces évidences, qui, relayée telle un énoncé flottant, finissent par ne plus être l'objet d'un questionnement, d'un débat, mais en délimitent l'espace, distribuent les positions divergentes et en ordonnent l'ordre du discours. Alors de quoi s'agit-il ? D'une question simple. Pourquoi certains individus sont-ils plutôt attirés par les personnes du sexe opposé ? Ou encore, autrement, pourquoi parlons-nous si peu de l'hétérosexualité ? Interroger l'hétérosexualité, c'est d'emblée placer l'hétérosexualité sur le même plan que les autres sexualités. Ce geste premier, parce que contemporain, est héritier du geste féministe des années 70, est littéralement révolutionnaire, car il implique une redistribution de toutes les paroles, qu'elles soient hétérosexuelles, homosexuelles, transsexuelles ou bisexuelles. En effet, si jusqu'à présent il était demandé à l'hétérosexualité de se faire tolérante vis-à-vis des autres sexualités, de donner une place aux paroles d'où pourraient s'articuler des discours, désormais avec ce livre, la culture hétérosexuelle est invitée à s'expliquer sur la légitimité de sa domination. Elle se révèle alors référente que par un tour de force historique, par une lutte contre d'autres modes d'existence entre les êtres. Une lutte, certes remportée, mais une lutte malgré tout, témoignant d'une non-naturalité de la culture hétérosexuelle, au même titre que toutes les formes de sexualité. Loin d'être un livre contre la culture hétérosexuelle, celui-ci invite, bien au contraire, à en faire la généalogie, à reconnaître ceux et celles qu'elle a tues et continue de taire. Il ne s'agit pas d'en finir avec elle, mais de l'inviter à discuter d'égal à égal avec ceux qui en elle ne se reconnaissent pas, à revisiter son mythe fondateur, pour aussi rendre la notion d'amour à chacun, libéré de son emprisme, afin qu'il soit à réinventer. Car il est possible, nous dites-vous, de penser une société aux pratiques hétérosexuelles dominantes ou non, sans que l'amour en soit le lieu de l'exaltation de ces pratiques. Enfin, c'est aussi l'occasion de revenir aux études de Michel Foucault, pour repenser la culture hétérosexuelle comme un mode de gouvernement qui induit des processus, des techniques, de normation et de normalisation des sujets. Alors pour terminer cette introduction, cette fois-ci en termes deleuziens, nous pouvons dire que ce livre nous permet de lancer un appel pour un devenir minoritaire de la culture hétérosexuelle, car si elle a remporté une victoire, son maintien en position de domination est pour elle une lutte perpétuelle, qui la conduira nécessairement à un épuisement, mais aussi à une mobilisation toujours plus violente de ses propres ressources. Ainsi donc, la célébration, l'exaltation du couple hétérosexuel est notre dispositif socio-sexuel dominant. Il est notre point de vue et donc le point aveugle de toute vision, nous dites-vous. Alors ce dispositif socio-sexuel dominant, vous nous dites qu'il émerge en Occident, vers le début du XIIe siècle, à la faveur de la société courtoise. Auparavant, ce couple homme-femme est très peu, voire pas du tout exalté, et il va s'imposer, après une lutte de plusieurs siècles, en lieu et place de ce que vous avez appelé la culture homosociale. Alors, peut-être peut-on commencer par là, si vous le voulez bien, par nous dire ce qu'est cette éthique courtoise qui naît au XIIe siècle et ce que vous appelez la culture homosociale.
Écoutez, je vous remercie de cette invitation, de cette lecture attentive, car il s'agit en effet d'examiner ce point aveugle de toute vision. Et pour moi, l'hétérosexualité doit être mise sur la sellette comme un objet social parmi d'autres. Le fait est que la science sociale a pour but de rendre visibles des réalités invisible. Or, s'il y a bien une réalité invisible, c'est l'hétérosexualité. Invisible et évidente à la fois. Évidente car elle crève les yeux, mais les yeux crevés n'ont jamais rien vu. Donc c'est bien pour cela qu'il m'a semblé urgent de travailler sur ce sujet quelque peu orphelin, alors que nous sommes tous de près ou de loin concernés par l'hétérosexualité, je suppose. Alors, au fond, il s'agissait de faire sortir l'hétérosexualité de l'ordre de la nature pour la faire entrer dans l'ordre du temps, c'est-à-dire dans l'histoire. C'est donc une histoire d'hétérosexualité que je commence ici. J'ai un projet qui doit courir sur 3 volumes, celui-ci n'étant que l'introduction en quelque sorte. Alors voilà cette histoire de l'hétérosexualité qui a pour but de faire apparaître ce qui jusqu'alors avait été occulté d'une certaine façon. Alors oui, au fond, ma réflexion commence aussi sur une base ethnographique. Car en fait, les ethnographes, depuis longtemps, nous ont montré des civilisations diverses qui fonctionnaient sur des bases extrêmement différentes et dans lesquelles le couple homme-femme et sa célébration dans l'amour, dans la passion, ont une place extrêmement mineure quand elle n'est pas tout à fait absente. Alors, dans la plupart de ces sociétés, bien entendu, les relations sexuelles sont hétérosexuées. Ça veut dire que la reproduction est hétérosexuée. Mais ça ne veut pas dire que la culture soit hétérosexuelle. Je veux dire par là que le couple homme-femme, en général, n'est pas un objet de célébration. Il est à la fois nécessaire et secondaire. Nécessaire pour la transmission du patrimoine, nécessaire pour la reproduction, mais secondaire dans les représentations. Et au fond, qu'est-ce qui est donné à voir dans ces diverses représentations ? Eh bien, c'est des objets très différents, par exemple, les cycles agricoles, l'observation des astres, l'organisation sociale, les normes juridiques, bien plus encore les sagas familiales, ou alors les récits guerriers, héroïques, autant de matières dans lesquelles l'amour d'un homme pour une femme ou d'une femme pour un homme est relativement marginal. Donc, ce que disent les ethnographes, au fond, c'est que la célébration du couple homme-femme à travers l'amour et la passion est une chose qui n'est pas un invariant des civilisations humaines. Et puisque ce n'est pas un invariant, mais que c'est le cas dans notre société, il faut bien comprendre que notre société a développé cette particularité à un moment donné dans l'histoire. Et hic et nunc aujourd'hui, nous sommes le résultat de cette histoire, même s'il est vrai que l'expansion coloniale et économique ont étendu dans le monde des propriétés particulières. Alors voilà un petit peu l'arrière-plan ethnographique, j'ai envie de dire, qui m'a conduit à cette réflexion. Alors ce faisant, je n'ai pas encore répondu à votre question, il est vrai. Alors pourquoi la société courtoise est-elle, à mon sens, dans l'Occident chrétien, un tournant ? Alors je dis bien l'Occident chrétien, c'est-à-dire que je n'envisage pas l'Antiquité, qui est une époque extrêmement différente et à laquelle j'aboutirai dans un volume ultérieur. Alors je parle donc de l'Occident chrétien, et il me semble que jusqu'au XIIe siècle, on n'a pas de culture du couple homme-femme, de l'amour ou de la passion. Cela est assez connu, la courtoisie est un objet social, historique et littéraire, travaillé par beaucoup de gens comme Duby et bien d'autres. En revanche, ce qui n'a pas été problématisé, c'est le passage entre ce qui précède et ce qui suit. C'est-à-dire le passage entre une culture que j'appelle en effet homosociale et une culture que j'appelle une culture hétérosexuelle. Alors la culture hétérosexuelle, c'est cette culture courtoise. Mais ce qui précède, c'est un monde d'hommes, dominé par les hommes, fait par les hommes, et c'est bien pour cela que j'ai cette perspective d'ailleurs androcentrée dans l'ouvrage, un monde où la femme a une place extrêmement marginale, on le sait, et donc ce qui est valorisé, ce sont les relations entre hommes. Alors les relations sociales, il ne s'agit pas de relations sexuelles. Je n'ai pas lieu de penser qu'il y ait plus de sodomites avant le XIIIe siècle qu'aujourd'hui. Je n'en sais rien et les textes ne nous disent rien là-dessus. En revanche, ce qui est valorisé, c'est les relations sociales entre hommes. Et on voit dans les textes cela d'une manière extrêmement frappante. Les textes, par exemple, relèvent des chansons de gestes, les récits de chevalerie, qui mettent en scène 2 hommes ou plus qui vont à la guerre, qui développent des relations extrêmement fortes. Ces relations sont du reste extrêmement soulignées par l'onomastique. Par exemple, ami et amile, qui sont la quintessence de l'amitié chevaleresque. Le nom le dit assez. On peut penser encore à Gérin et Gérier, Yvain et Ivoire, Lancelot, Galeo, etc., etc., Clarisse et Larisse. Bref, il y a quantité de romans de chevalerie qui mettent au cœur de leur action un couple d'hommes qui développe une amitié extrême sans qu'elle soit nécessairement sexuée. Rien de tel n'apparaît dans les textes. Voilà donc ce que j'appelle l'homosocialité masculine, caractéristique de la culture féodale antérieure au XIIe siècle. Alors à partir du moment où la société courtoise s'introduit, donc XIIe, XIIIe siècle, les chevaliers se trouvent dans une situation de « double bind », comme on dit dans l'école de Palo Alto, c'est-à-dire des injonctions contradictoires s'imposent à eux. De deux choses l'une, soit ils acceptent la mode nouvelle, ils acceptent de servir la femme, de courtiser la femme, mais alors ils donnent l'impression d'être efféminés, soit au contraire, ils restent comme au bon vieux temps, entre hommes, mais on les accuse de plus en plus d'être des sodomites. Alors voyez, faut-il avoir l'air sodomite ou efféminé, des deux côtés, le mal est infini. Et cela est d'autant plus frappant que pour nous, il s'agit là de deux figures absolument similaires. L'homosexuel contemporain, il est à la fois sodomite et efféminé dans l'imagerie populaire. À cette époque, ça n'a rien à voir, ce sont deux personnages totalement opposés. Le sodomite, c'est l'homme à homme, et l'efféminé, c'est l'homme à femme. Donc il y a là une distance absolue, et voilà pourquoi la culture chevaleresque va devoir composer avec la culture courtoise, ce qui va demander beaucoup de temps et d'énergie.
Alors, on nous dit qu'au XIIe siècle naît un peu le mythe fondateur de l'amour hétérosexuel triomphant des amitiés masculines. Cette lutte et ce triomphe, vous l'analysez dans un roman particulier qui est Les aventures de Tristan et Iseut. On y retrouve le conflit entre les amours hétérosexuels et les amitiés masculines. Tristan, en tant que vassal, appartient au roi Marc, il doit fidélité. Mais en tant qu'amant, vous nous dites, il appartient à sa domina Iseut. On est là dans cette situation de double bind. Peut-être pouvons-nous nous arrêter justement sur ce passage de l'amour comme accident, puisque dans Tristan et Iseut, il y a le filtre que boivent ensemble Tristan et Iseut par erreur, à l'amour comme coup de foudre, dans une autre version de Tristan et Iseut, la version de Thomas. Parce que ce passage est d'une importance capitale, car il va d'une part peut-être neutraliser l'amour en le rendant exclusif au rapport hétérosexuel, et en même temps naturaliser l'hétérosexualité. Et d'autre part, l'amour peut être vu, en tout cas à l'époque, comme le cheval de Troie d'un processus de conquête d'un nouveau territoire ou d'un espace public et poétique, ou d'une parole, pour les femmes de l'époque. Cette société courtoise qui apparaît, et peut-être aussi une possibilité, ou en tout cas un désir des femmes de sortir d'un enfermement dans lequel elles étaient. Alors avec cette histoire et celles qui suivront de Chrétienne III,